Dans ce second épisode, Olivier Provencher, professeur de philosophie au Cégep de la Gaspésie et des Îles, et Dave Ferguson, animateur à CGRG Radio Gaspésie, discutent d'éthique des algorithmes avec le philosophe Martin Gibert. Adeline Lemasson, étudiante en foresterie au Cégep, s'est jointe à eux pour cet entretien futuriste.
Bienvenue à cet épisode du Pensoir. Mon nom est Dave Ferguson, animateur à CGRG Radio Gaspésie. Je suis accompagné aujourd'hui de Olivier Provencher, professeur en philosophie au Cégep de la Gaspésie des Îles. Bonjour Olivier.
Salut Dave.
Et également de Adeline Lemasson, qui est une étudiante au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Notre invitée du jour pour cette discussion. Adeline, rapidement, tu étudies dans quel domaine au Cégep de la Gaspésie?
Alors, je suis en deuxième année de foresterie, technologie forestière, voilà, au Cégep de Gaspésie.
Donc, tu as réussi à faire un lien un peu avec la philosophie. Qu'est-ce qui t'a apporté à vouloir participer à ce projet-là aujourd'hui? Parce qu'on va discuter avec l'auteur Martin Gibert, qui a fait notamment le livre « Faire la morale aux robots ». C'est un livre que tu as traité de dans un des cours avec notamment Olivier ici. Donc, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce projet, dans cette discussion aujourd'hui?
Déjà, le livre en soi, parce que j'étais très surprise. Moi, la technologie, l'intelligence artificielle, c'est pas du tout quelque chose que je connais et que je maîtrisais. C'est vrai qu'à premier abord, j'avais un peu peur de traiter de ce sujet-là parce que c'était vraiment quelque chose, j'ai pas du tout l'habitude, surtout en philosophie. Hein. Moi, j'étais plus basée sur la philosophie, ça va plus être la conscience, tout ce qui était moralité, Socrate, tout ça. J'avais un peu peur de pas du tout comprendre le sujet. Et le livre est vraiment très accessible et j'ai vraiment été surprise de pouvoir comprendre aisément ce que Martin Gibert disait dans ce livre-là. Voilà.
Non, mais très, très, très intéressant comme approche. Je sens qu'on va avoir une belle discussion aujourd'hui. Donc, pour les gens qui sont à l'écoute, je vous fais un résumé rapide là, du livre. Donc, c'est un livre où on parle de l'éthique des algorithmes. Ça s'appelle « Faire la morale aux robots ». On parle de véhicules autonomes, d'assistants virtuels. On va aussi dans différents concepts. On va justement mettre en question peut-être là, la façon qu'on fait des choix et la façon qu'un ordinateur peut faire des choix. Pour mieux en parler que moi, on a l'auteur même, Martin Gibert, qui est philosophe et chercheur en éthique à l'Université de Montréal. Il a déjà publié notamment « L'imagination en morale » et « Voir son steak comme un animal mort » et cette parution donc qu'on va traiter d'aujourd'hui, « Faire la morale aux robots ». Donc, bienvenue Martin Gibert, merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui.
Et merci pour cette invitation.
Donc, rapidement, pour les gens qui n'ont pas nécessairement lu le livre, mais qui veulent suivre notre discussion, j'aimerais connaître de ton point de vue, qu'est-ce que ton livre raconte? Comment tu le résumerais à une personne qui n'a pas lu ce livre?
Alors, peut-être la première chose à dire, c'est de dire que c'est une introduction à un type particulier d'éthique, qui est l'éthique appliquée aux robots ou l'éthique appliquée aux algorithmes. Ce qui arrive depuis quelques années, c'est qu'on a de plus en plus de systèmes qui utilisent de l'intelligence artificielle, qui sont présents dans nos vies. Et quand on s'y intéresse de près, on se rend compte que ces systèmes sont amenés à faire des choix qui peuvent avoir des conséquences sur nos vies. Du coup, se pose une question de savoir comment est-ce qu'on les programme. Donc, l'éthique des algorithmes, c'est ça. C'est essayer de répondre à la question comment est-ce qu'on devrait programmer nos robots, nos algorithmes pour qu'ils se comportent bien du point de vue moral. Et évidemment, ça fait appel à plein de questions en philosophie morale.
Donc, c'est un concept qui va, je vais utiliser le terme, nous rattraper éventuellement parce qu'on a de plus en plus d'appareils dans nos maisons, dans notre quotidien, qui vont utiliser ces technologies. Et ça semble aller de façon exponentielle. Donc, très content qu'on puisse en discuter aujourd'hui. Et Adeline, je te laisse la parole pour débuter cette conversation. Je sais que tu avais préparé une belle entrée pour cette discussion. Donc, je te laisse débuter tout ça.
Oui, en effet, ma première question, c'est parmi tous les thèmes, tous les sujets qui existent en philosophie, pardon, qui est très large, un grand panel de thèmes et de sujets en philosophie, pourquoi s'être intéressé à ce sujet-là en particulier et avoir senti la nécessité de faire un livre, en fait?
Alors, bon, il faut savoir que déjà, moi, comme philosophe, je suis déjà un peu spécialisé. Mon doctorat, c'est dans ce qu'on appelle la psychologie morale, qui est une partie de l'éthique, où on essaie de se poser la question pourquoi est-ce que les gens ont les intuitions morales qu'ils ont, se comportent comme ils se comportent. Et puis après ce doctorat, il y a eu tout simplement une offre d'emploi en éthique de l'intelligence artificielle à laquelle j'ai répondu et que j'ai eu, donc à l'Université de Montréal. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'argent en ce moment autour de l'intelligence artificielle parce que ça se développe assez fortement au Québec, en particulier à cause de la présence d'un chercheur de renommée internationale qui s'appelle Yoshua Bengio. Donc toujours est-il que moi qui étais déjà spécialisé en éthique, je me suis retrouvé à m'intéresser à l'éthique de l'intelligence artificielle. Et là, la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que je pourrais être vraiment utile pour faire avancer les choses dans ce nouveau domaine, parce que c'est ça qui est particulier, c'est que c'est vraiment des nouvelles questions. Et il m'est apparu que essayer d'expliquer un peu les grandes théories morales, l'éthique, aux gens qui font ces robots, donc aux programmeurs, aux programmeuses, aux gens en informatique, c'est là où je pouvais être vraiment utile. Et après, quand je me demande, OK, qu'est-ce que ces personnes-là devraient savoir sur les grandes théories morales, par exemple, c'est aussi faire une introduction à l'éthique parce que ces personnes-là, elles n'ont pas plus de connaissances en éthique que la plupart des gens. Donc, en fait, ce que j'ai cherché à faire, c'est une introduction à l'éthique qui serait utilisable par des programmeurs, des programmeuses et aussi par toute personne qui se pose des questions à ce sujet.
Donc, vraiment une approche pour vraiment introduire les gens qui n'ont peut-être pas nécessairement tous les concepts dont vous avez les connaissances et vraiment les vulgariser pour les rendre accessibles.
Ouais, c'est ça. L'idée, c'est que la personne qui commence le livre, elle n'a pas besoin de savoir rien du tout en philosophie morale ou même en informatique pour à peu près tout comprendre. Parce que tout est expliqué petit à petit, comme un cours, quoi.
Puis il y a aussi, il y a aussi le côté très pratique là, que tu mentionnais d'offrir une compréhension de l'éthique aux gens qui travaillent en intelligence artificielle. Moi, j'étais curieux de savoir, est-ce que c'est bien reçu, cette offre? Est-ce que tu sens que du côté des chercheurs en IA, il y a un intérêt pour l'éthique des algorithmes?
Ben, dans ceux que je connais, oui. Après, ça peut être un biais de sélection. C'est pour ça que je les connais. C'est pour ça qu'ils veulent qu'ils s'intéressent à ce que je fais. Mais en tout cas, oui. C'est souvent des gens brillants, intelligents. Ils voient bien qu'il y a des enjeux éthiques importants et que c'est pas l'informatique en tant que telle, c'est pas l'intelligence en tant que telle qui peut répondre à ça. Parce que l'intelligence artificielle, ça c'est réfléchir sur la technique, comment ça marche, comment on fait. Mais les enjeux éthiques, c'est plus des questions sur les objectifs. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on devrait le faire? En fait, c'est ça. Les questions éthiques, c'est est-ce qu'on devrait faire ceci ou cela, quoi. Donc, les chercheurs en IA, ils ont bien conscience que c'est des gros enjeux qui dépassent leur discipline.
Est-ce que vous pensez que les robots doivent être programmés différemment selon les régions, selon les populations, étant donné que nous savons que les cultures sont très différentes, hein, quelque chose qui se fait au centre de l'Asie peut être très bien vu et très mal vu au nord de l'Amérique. Donc est-ce que vous pensez que ces robots doivent être programmés différemment, réfléchis différemment et une éthique différente selon les régions et les pays?
Ouais, alors c'est une question vaste, assez difficile. Peut-être que pour l'aborder, le mieux c'est de reprendre l'exemple que j'utilise le plus dans le livre, qui est l'exemple de la voiture autonome, donc un robot de transport, une voiture qui prend elle-même la décision de quoi faire, est-ce qu'il faut tourner à gauche ou faut tourner à droite. Et question qui se pose en particulier en cas d'accident, voilà, supposons un accident inévitable où la voiture devrait soit écraser un vieillard, soit ne pas écraser le vieillard, mais à ce moment-là, elle peut tout simplement écraser un enfant. Donc, comment est-ce qu'on programme une voiture à choisir entre un vieillard et un enfant? Et là, effectivement, quand on pose cette question, il y a une grande étude de psychologie morale qui a été faite il y a quelques années par des chercheurs du MIT, qui ont demandé tout autour du monde à des gens, selon eux, quelle était la bonne chose à faire. Alors, il y avait vieillard enfant, puis il y avait beaucoup de configurations. Et là, on s'est rendu compte que il y avait des différences, en particulier sur vieillard enfant. En Asie, les gens avaient un peu plus tendance à vouloir sauver le vieillard. Dans les pays du Sud, on avait un peu plus tendance à vouloir sauver l'enfant. Et dans les pays de l'Ouest, comme l'Amérique du Nord, l'Europe. C'était plutôt l'enfant, mais moins fort que dans les pays du Sud. Donc, autrement dit, il y a des variations régionales, des intuitions des gens quand on leur demande qu'est-ce qui, selon eux, est bien ou mal. Donc ça, c'est on constate ça. Alors, comment après est-ce qu'on deal avec ça quand on veut fabriquer des robots? Une façon peut-être la plus conservatrice de faire, ce serait de dire, ben, on va respecter, la voiture va respecter les normes morales, les standards moraux de la région dans laquelle elle se trouve. Donc, ça voudrait dire que si on doit programmer la voiture autonome à réagir d'une certaine manière en cas d'accident inévitable entre un enfant et un vieillard, ben, on s'arrangera pour que le programme chinois soit un peu plus favorable aux enfants, pardon, aux vieillards, et inversement pour les autres programmes. Après, si on pousse la réflexion, ce qu'aiment bien faire les philosophes, ça veut aussi dire, voilà, on pourrait penser que non, il y a une bonne façon de programmer la voiture, une façon qui est la façon moralement juste, et que c'est celle-ci qui devrait être, c'est celle-ci qui devrait valoir dans le monde entier. Mais après, il faut être sûr qu'on a trouvé la bonne façon de programmer. Et puis ça, c'est difficile. Mais sur certains éléments, là, vieillard-enfant, c'est un vrai dilemme. C'est difficile. Il n'y a pas de réponse vraiment claire qui saute aux yeux. Mais il y a des types de dilemmes qui sont plus faciles à gérer. Peut-être que si le dilemme c'était entre un enfant et cinq enfants. Bah, tout le monde serait d'accord dans le monde entier pour dire dans ce cas-là, il vaut mieux sauver les cinq enfants que en sauver un seul.
Et là, je me pose la question, je serais curieux de connaître votre opinion là-dessus, M. Gibert. Est-ce que on doit conserver un peu l'anonymat de la façon de penser de l'algorithme? Est-ce qu'on doit avoir accès à un peu qu'est-ce qui a été utilisé, exemple, dans l'accident de voiture? On a accès un peu comme à une boîte noire à ce moment-là. Pour savoir, exactement la méthode de pensée de la voiture, est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait avoir ou quelque chose qui est peut-être défavorable aux intelligences artificielles?
C'est pas évident non plus. Les deux options peuvent avoir des avantages. Dans le cas d'une... restons sur mon exemple de voiture autonome. Supposons qu'on fabrique certaines voitures qui sont un peu plus pro enfants, d'autres qui sont un peu plus pro vieillards en cas d'accident. Est-ce qu'on devrait le dire aux gens quelle est la personnalité ou comment sont précisément réglées chaque voiture si elles sont différentes? C'est pas évident. On pourrait préférer qu'il y ait un peu de hasard, qu'il y ait un peu de random là dedans. Mais on pourrait aussi, ça prendrait un autre type de programmation, vouloir une règle stricte qui soit vraiment très claire et puis la même pour tous, du genre la voiture sauve tout le temps la personne la plus jeune, et puis ça on le sait, puis on deal avec ça. Mais il peut y avoir des arguments pour, comme une personne, quand on agit avec une personne, on ne sait pas savoir exactement comment elle va réagir, et ça peut rendre la relation plus riche, mettons. Alors peut-être on pourrait imaginer qu'avec des robots sociaux, ce soit bien que il y ait un peu de random dans leur réaction pour rendre la réaction plus riche. Bon, c'est des hypothèses que je fais un peu comme ça là, mais voilà.
Et puis il y a aussi, il me semble, l'intérêt en tout cas de l'anonymat, il me semble, c'est aussi de j'ai l'image en tête là, des pelotons d'exécution où il y a cinq personnes qui tirent sur le condamné, mais il y a seulement une des personnes qui un des fusils finalement qui tire pas à blanc, ça sert à ce que donc les personnes qui sont chargées de d'exécuter donc la personne qui est condamnée ne sachent pas finalement qui a tiré. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée derrière l'anonymat de la programmation, de dire peut-être qu'on veut pas laisser le fardeau de la décision éthique au programmeur.
Ah oui, ça par contre, c'est sûr que ça, je pense que ce serait une assez mauvaise idée que le fardeau soit du côté du programmeur. Il n'a pas de raison qu'il ou elle décide. Puis c'est probablement pas quelque chose qu'il ou elle veulent faire là. Mettez-vous à leur place. Vous devez construire une voiture et la programmer. Vous voulez probablement pas avoir la responsabilité de prendre ce genre de décision. Donc il faut que ça se passe à un autre niveau, soit au niveau de l'entreprise, soit même probablement plus même à un niveau gouvernemental. En tout cas, en Allemagne, c'est ça qui a été décidé. C'est au niveau gouvernemental qu'il y a une commission qui s'est réunie pour décider comment on devrait traiter certains dilemmes.
Mais c'est l'intérêt d'une introduction à l'éthique des algorithmes, justement, que de proposer une réflexion sur ces questions-là.
On peut se demander aussi, est-ce que ça a été le sujet de notre première discussion, est-ce qu'un algorithme ou une intelligence artificielle peut être responsable de ses actes? Parce que si on regarde l'anonymat de l'information par rapport au programmeur, est-ce que dans un cas problématique, est-ce qu'on revient, exemple, à une poursuite suite à un accident de voiture, est-ce que c'est la voiture elle-même ou l'algorithme, entre guillemets, qui est responsable ou les gens qui l'ont programmé?
Alors, ça, c'est pas un sujet que je touche vraiment dans le livre, parce que c'est pas nécessaire, en fait, pour savoir comment bien programmer. C'est une question différente, savoir comment bien programmer, puis est-ce que la voiture est responsable. Donc ça voudrait dire un être humain, et en général, un être humain, non pas n'importe quel être humain, un être humain adulte, en capacité, avec toutes ses capacités mentales, on va considérer qu'il ou elle est responsable, et donc éventuellement le blâmer ou le condamner. Dans le cas d'un robot, d'une voiture autonome, ça paraît assez absurde parce que c'est pas une personne, il n'y a pas de. C'est pas comme quelqu'un, c'est juste des algorithmes, c'est juste des mécanismes, il n'y a même pas de conscience, par exemple. On pourrait pas. Quand on blâme un humain, on peut penser que. Un des effets du blâme, c'est que la personne se sent cheap et donc elle souffre un peu ou elle ressent des émotions particulières parce qu'elle a été blâmée. Dans le cas d'un système d'intelligence artificielle, ça n'a pas de sens. Il ressent rien du tout, quoi. Alors peut-être qu'un jour ça arrivera, des robots conscients ou sentients, et que là on pourra se reposer la question. Mais à date, c'est pas possible. Et de toute façon, du point de vue légal, c'est pas tant un problème que ça. Des événements où il y a personne à blâmer, ça arrive. Quoi. Je sais pas, quand le tonnerre tombe sur une maison, je ne sais quoi, il y a personne à blâmer, mais il faut quand même un mécanisme assurantiel pour réparer les dégâts. Et je crois que je suis pas un spécialiste, mais il me semble que quand il y a un accident de voiture, de toute façon, qui est responsable n'est pas si fondamental que ça. Là, les gens sont remboursés. Après, qui grondait si un algorithme s'est trompé, probablement beaucoup de monde, en fait, parce que c'est pas une personne, c'est un collectif. Donc, oui, les gens qui ont eu l'idée, qui l'ont programmé, mais aussi ceux qui ont vérifié, ceux qui l'ont mis sur le marché. Donc c'est la responsabilité collective, quoi. Si on veut des responsables, c'est une responsabilité collective.
Pour en revenir avec la problématique des cultures et la différenciation à l'international, est-ce que vous pensez que l'humanité est prête à accueillir ces robots, dans le sens où des chercheurs au MIT qui et à la NASA qui cherchent à aller sur Mars s'intéressent réellement à l'intelligence artificielle et à la capacité d'être aidés par ces objets, mais est-ce que ça concerne aussi, et est-ce que les pays sous-développés ou les pays pauvres, par exemple d'Afrique subsaharienne, sont prêts à accueillir cette intelligence artificielle et ces robots?
Mais en un sens, ils l'accueillissent déjà. Là, dès qu'ils ont un compte YouTube, dès qu'ils ont un compte Facebook, il y a déjà de l'intelligence artificielle qui est présente. Après, sur des voitures autonomes, peut-être pas. Puis, c'est sans doute rationnel de leur part. C'est pas encore au point, ça coûterait trop cher. Donc, dans un pays où la main-d'œuvre est super bon marché, ça risque de rester quand même assez longtemps économiquement rationnel de faire travailler des humains plutôt que des robots super compliqués de voitures autonomes. Mais dès l'instant où les gens ont une connexion Internet, et voilà, un compte YouTube, un compte Facebook, TikTok, Instagram, etc., c'est pas tout le monde. Hein. Parfois, on a l'impression que c'est tout le monde. Il y a quand même, je sais pas, peut-être une moitié de l'humanité là, qui a pas accès à ça, peut-être même plus, probablement plus que ça. Mais pour les autres, ouais, là, ils subissent déjà ou ils profitent déjà des algorithmes d'intelligence artificielle.
Mais dans le cas du robot dont tu parles dans ton livre, du robot éthique, est-ce qu'une nécessité maintenant pour faire le pont avec la question d'Adeline, et est-ce qu'on en veut vraiment maintenant des robots éthiques, et si oui, pourquoi?
Là encore, ça dépend de quoi on parle, mais pour reprendre l'exemple concret de YouTube, si on assume que YouTube, c'est un système, le système de recommandation, c'est un système d'intelligence artificielle normal, oui, je pense qu'on veut qu'il soit éthique. Et puis même YouTube veut qu'il soit déjà éthique. On avait ce gros problème sur YouTube. Je parle au passé parce que je pense que ça a été en partie réglé, où plus les vidéos étaient émotionnelles et faisaient que les gens se fâchent, plus les vidéos faisaient que les gens passaient du temps à les regarder, plus elles étaient promues par YouTube. Et en fait, sur YouTube, 2/3 des vidéos qui sont regardées sont des vidéos qui ont été recommandées. Et donc, les gens regardaient des vidéos conspirationnistes, des gens, ils en regardent encore, hein, mais des vidéos conspirationnistes, des vidéos anti-vaccins. Et comme YouTube voyait que ça marchait, c'est-à-dire que les gens les regardaient, et puis c'est ça que l'algorithme cherchait à maximiser, le temps de, le watch time, le temps d'attention sur les vidéos, il en redonnait, et comme ça, ça a favorisé que des gens qui se promenaient sur YouTube un peu innocemment se sont fait happer par les théories conspirationnistes ou les théories anti-vaccins et sont devenus, par exemple, anti-vaccins. Donc, on peut penser qu'un algorithme YouTube éthique devrait vraiment éviter ça. Puis, en fait, comme je disais, là, YouTube a quand même fini par réagir. Et normalement, ce type de vidéo est plus recommandé. Elles sont encore présentes, mais elles sont plus recommandées par l'algorithme. Et alors, on pourrait se demander à l'inverse, est-ce que l'algorithme ne pourrait pas recommander des bonnes vidéos, des vidéos qui vont, mettons, dans le sens de la lutte contre les changements climatiques? Ça pourrait aussi être une façon de faire un robot éthique. Voilà, ça dépend, bien sûr, ça dépend du type de robot. Pour les voitures autonomes, je pense que c'est pas si urgent que ça. Le gros argument en faveur des voitures autonomes, c'est de dire qu'elles vont être plus sécuritaires, parce que l'algorithme qui la conduit, il peut pas être sous, il peut pas s'endormir, il va tout le temps respecter le code de la route, il a plein de capteurs, donc théoriquement il est plus efficace qu'un humain, et donc ça devrait produire moins d'accidents de la route. Mais on n'en est quand même pas tout à fait là, même si je pense que c'est important d'anticiper, de se demander ok, comment est-ce qu'on va les programmer. Ce qu'a fait ce comité allemand que j'évoquais.
Quelles conséquences voyez-vous à long terme de côtoyer ces intelligences artificielles, potentiellement la superintelligence? Quelles conséquences voyez-vous sur les relations sociales entre humains?
Là aussi, c'est difficile de répondre, parce que c'est un peu essayer d'anticiper le futur. Disons, si on regarde sur le présent, d'un côté, ça met en connexion les gens, parce que ça a comme jamais été aussi facile de communiquer aujourd'hui, probablement, que dans toute l'histoire de l'humanité. Ça prend beaucoup l'attention. Ça, c'est quand même le revers. Là, c'est parfois tellement intéressant. Repensons à notre YouTube. Et puis, si les gens regardent les vidéos anti-vaccins, parce qu'ils les trouvent intéressantes. Donc, ça capte leur attention. Et là, il peut y avoir un gaspillage, parce que au bout de la 5e vidéo anti-vaccin, c'est sûr que vous apprendrez plus rien de nouveau et que vous feriez vraiment mieux d'aller regarder autre chose. Mais si on est bon, on va avoir des bons robots qui vont favoriser des bonnes relations humaines, et puis on peut espérer que les tâches les plus pénibles vont être déléguées. Tout ce qui est pas intéressant, un monde un peu idéal avec des robots. Bon, déjà, faudrait résoudre la crise climatique, là, mais supposons qu'on a résolu la crise climatique et puis qu'on est dans un monde avec des robots. Probablement qu'un monde idéal, ça serait quelque chose où toutes les tâches pénibles, que ce soit des tâches physiques ou des tâches intellectuelles, sont déléguées à des robots, à des machines, et que ça laisse plus de temps pour les rapports humains. À l'hôpital, il y a sans doute des choses qui pourraient être faites par des machines, y compris des tâches de secrétariat, etc. Et si ça pouvait faire plus d'infirmiers et d'infirmières pour tenir la main des malades, là, on a l'impression que ce serait bénéfique. Mais après, ouais, ça risque de dépendre des secteurs. Ce qui est sûr. Il va y avoir aussi des conséquences sur l'emploi, parce que quand une intelligence artificielle, c'est fait pour reproduire quelque chose qui est fait autrefois par un humain, là. Et donc, quand ça marche bien, quand c'est bien efficace, on n'a plus besoin de l'humain, donc l'humain se retrouve au chômage. Et alors là, il y a des questions économiques qui se posent de savoir est-ce que il faut viser un modèle où mettons, on parlait des voitures autonomes. Donc, mettons que ça marche vraiment, les voitures autonomes, que ça peut se répandre, y compris, là, ils ont des difficultés avec l'hiver, la neige, ça. Mais mettons qu'on surmonte ça, il peut y avoir des voitures autonomes en Gaspésie et partout sur Terre. Les gens qui conduisaient, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de camions, il va falloir qu'ils se reconvertissent, qu'ils trouvent un autre travail. Alors, si c'est juste ça, si c'est juste eux, ça peut marcher parce que économiquement, là, on est quand même habitué à ce qu'il y ait des secteurs qui apparaissent, qui disparaissent. Mais si ça se répand, si c'est pas simplement les chauffeurs de taxi et de camions, mais si c'est les caissiers, les caissières, les supermarchés, en tout cas, tout un tas de métiers qui pourraient être automatisés, là, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à une société dans laquelle globalement on travaille moins, quoi, parce que les machines feraient une grosse partie du travail. Et si on est dans une société où globalement tout le monde travaille bien, ça peut être une excellente nouvelle, mais encore faut-il qu'il y ait une bonne redistribution des richesses et que ce soit par exemple pas simplement les propriétaires des robots, les propriétaires des voitures autonomes, là, que ce soit pas juste pour Elon Musk, quoi. Si c'est juste Elon Musk qui devient de plus en plus riche et puis le reste de la population n'a plus de travail, et ça marche pas. Donc là, il faut un système de redistribution où les gens retrouvent une part des ressources produites par les robots.
Ben, encore une fois, pour faire du chemin avec la très bonne question d'Adeline, la thèse de ton livre, hein, la proposition finale de ton livre, c'est celle des robots virtueux. Donc, ces robots qui finalement agiraient comme agirait une personne virtueuse dans une situation donnée. Puis, comment on peut faire ça? Ben, notamment avec les algorithmes d'apprentissage, donc l'apprentissage automatique ou l'apprentissage par entraînement, puis ce genre de choses. Et en relisant tout à l'heure, je me suis demandé, est-ce qu'on peut s'imaginer que les robots, les intelligences artificielles programmées pour être virtueuses, deviendraient éventuellement meilleures que les êtres humains pour agir moralement?
Mais c'est quasiment la prémisse. C'est intéressant d'avoir un robot programmé moralement, c'est intéressant d'avoir un robot vertueux, s'il est un peu meilleur que l'humain moyen, quoi. Parce que sinon, à quoi bon? Et donc, oui, je pense que si on s'accorde, mettons, supposons qu'on pense vraiment que la bonne chose à faire dans un dilemme enfant-vieillard, c'est de sauver l'enfant. Dans la situation actuelle, quand il y a ce type d'accident, ça va trop vite, les chauffeurs humains agissent par réflexe et puis écrasent l'un ou l'autre, mais sans avoir fait de raisonnement, de délibération morale. Si on remplace tout ça par des voitures autonomes, dans ce cas-là, on fait un progrès moral parce que on se retrouve avec des accidents où c'est le bon côté qui est choisi, à savoir sauver l'enfant. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire que les robots sont meilleurs que les humains. Et puis, tant mieux, quoi. Alors peut-être pour revenir alors rebondir aussi sur la question d'Adeline. On pourrait, comme conséquence, si on suivait mon plan, là, mon plan machiavélique de mettre des robots vertueux partout, on pourrait effectivement peut-être avoir un niveau global de moralité humaine qui augmente un peu. Mettons que les chatbots avec lesquels on interagit soient programmés à partir du 1% des personnes les plus vertueuses qui existent dans la population, ça serait pas mal, parce que ça veut dire que chacun d'entre nous, là, on peut assez facilement avoir des interactions avec des personnes qui sont des modèles de moralité. Enfin, des personnes, entre guillemets, avec des robots qui sont des modèles de moralité quand on interagit avec eux.
Parce que je me disais que le revers de ça, ça pourrait aussi être d'extérioriser la moralité, là, de dire c'est plus quelque chose qui est de notre ressort, ou même appauvrir notre capacité.
Qu'on n'a plus besoin de faire de choix, en fait, là, qu'on laisse la machine choisir pour nous, puis on se dit ça semble être bien programmé, on va vivre avec la décision. Est-ce que ça pourrait peut-être, comme Olivier dit, appauvrir nos décisions nous-mêmes?
Ouais. Alors effectivement, on pourrait faire l'analogie si à partir du moment où il va y avoir des robots de transport, des voitures autonomes, on n'aura plus besoin d'apprendre à conduire. Alors, est-ce que à partir du moment où on va avoir des robots vertueux ou des robots programmés moralement, on n'aura plus besoin de savoir prendre des décisions morales? C'est difficile. On peut sans doute imaginer plusieurs types de scénarios, mais ouais, assumons là, prenons un scénario radical là où on se délègue complètement sur eux des prises de décisions morales. Mais qui sont bons pour faire ça, why not? Si on a vraiment l'assurance que c'est eux qui prendront les meilleures décisions, pourquoi pas en tout cas tenir au fait que faut absolument que la décision soit faite par un humain, que ça me paraît pas une nécessité absolue. On peut avoir d'excellentes décisions qui ne sont pas prises par un humain.
Tu viens de faire pleurer Kant.
Oui, non, c'est sûr. Ouais. Alors, en disant ça, effectivement, je me mets plutôt dans une lignée de penseurs conséquentialistes qui vont considérer que ce qui ultimement est la façon de déterminer ce qui est bien ou mal, c'est les conséquences. Et voilà, en gros, ce que je disais, si ça a des bonnes conséquences d'avoir des robots qui prennent les décisions à notre place, comme ça pourrait avoir de bonnes conséquences qu'on perde le permis de conduire, qu'on perde l'habileté à conduire, pourquoi pas? Mais il y a d'autres types de penseurs, notamment Kant, Emmanuel Kant, un philosophe allemand, pour qui c'était vraiment important que la décision vienne de la... viennent non pas en fonction des conséquences, mais du sujet, que ce soit un acte de sa volonté, etc. Donc non, effectivement, ça a révélé que je ne suis pas très kantien.
J'ai lu votre bouquin deux fois, votre livre, pardon. Vous parlez avec beaucoup d'humour dans ce livre. Est-ce que ce n'est pas pour un peu dédramatiser le sujet principal?
Oui, je pense que tu as une bonne intuition. Il y a de ça. Je ne voulais pas faire un livre de plus, attention, danger, méchantes intelligences artificielles. Je voulais essayer de l'aborder avec une certaine distance en disant c'est aussi un sujet sur lequel on peut, qu'on peut regarder avec des yeux de philosophe, quoi, avec des yeux qui vont s'intéresser, avec une perspective qui va s'intéresser aux principes. Et puis, c'est un sujet d'éthique appliquée comme d'autres sujets d'éthique appliquée. On pourrait faire un livre sur est-ce que c'est bien ou mal d'avorter, est-ce que c'est bien ou mal d'ouvrir les frontières, ce genre de choses. Donc, l'humour est une façon de dédramatiser, puis c'est aussi une façon d'aller accrocher un peu le lecteur et l'électrice, de leur dire « Non, c'est pas si difficile que ça » ou « Ok, il y a peut-être un passage difficile, mais vous savez, il y aura peut-être une blague dans quelques pages, donc tenez le coup, quoi. »
Il y a une blague que j'ai pas comprise.
Oh!
Comment il s'appelle? C'est qui? Baffy, c'est ça?
C'est une vraie personne, c'est un vrai... c'était une façon de prendre un personnage random, mais que j'ai emprunté, qui est un vrai humoriste français qui aimait bien se moquer des gens. Quand j'étais ado, il me faisait assez rire. Là, maintenant, je suis moins sûr. Là, il était quand même un peu, voire beaucoup sexiste, des choses comme ça. Mais peu importe, je le prends de façon un peu random parce qu'il est cité dans un roman de Michel Houellebecq qui aime bien faire ça, utiliser des éléments très, très réels. Et puis, il imagine la mort de cet humoriste français à la télé. Puis, il imagine, Michel Houellebecq, que tout le monde, comme quand quelqu'un de connu meurt, tout le monde dit « Ouais, c'était une belle personne, c'est une bonne personne. » Et puis, quand on connaît ce Laurent Baffy, c'est un peu, puis c'est pour ça que Houellebecq le fait, c'est un peu amusant, c'est un peu... un peu paradoxal de penser aux gens qui viennent sur la tombe de Laurent Baffy en disant comment c'était une bonne personne, une personne vertueuse. Mais en tout cas, pour donc ceux qui connaissent ce cadre-là peuvent peut-être un peu plus voir la blague, mais après, il fonctionne surtout comme un exemple random de personne vertueuse, quoi.
Merci, je me sens beaucoup mieux maintenant que je la comprends.
Moi, je connaissais Laurent Baffy. Moi, j'avais compris la blague.
Petit problème culturel ici.
Nous vivons déjà dans un monde plein d'inégalités. Ça va être comment gérer ces, comment programmer, comment gérer cette intelligence, ces intelligences artificielles, ces robots, avec ces inégalités déjà présentes, et comment choisir, en fait, comment faire le bon choix.
Je me permets d'ajouter aussi comment gérer les préjugés de société qui pourraient peut-être être ajoutés là, à cette programmation.
Ouais, alors ça, c'est, on s'est demandé beaucoup aux robots là, de réparer les inégalités et les préjugés des sociétés, dans nos sociétés, mais c'est quand même une question importante, en particulier avec un certain type d'intelligence artificielle qui est l'apprentissage automatique, l'apprentissage supervisé, où là, l'idée, c'est de prendre des exemples dans la vie réelle et d'apprendre, de donner ça à des algorithmes qui apprennent à partir de ces exemples. Sauf que si les exemples qu'on leur qu'on donne à ces algorithmes sont des exemples qui reflètent les inégalités, mettons qu'on dit, on demande à un algorithme, combien il faut payer telle personne, et puis qu'on lui donne plein d'exemples de comment on paye les gens, puis qu'ils seront pas, et puis que supposons que c'est probablement le cas encore, que en moyenne les femmes gagnent un peu moins que les hommes. L'algorithme, si on lui donne juste voilà comment en général les humains payent les gens, il va voir que les femmes sont en général un peu moins payées que les hommes. Spontanément, quand on lui demande combien il faut payer telle personne, elle va faire l'algorithme ferait une discrimination selon le sexe. Heureusement, on est au courant de ça. Les chercheurs en IA sont au courant de ces risques, de ces biais. On appelle ça, on parle de biais, alors de biais sexistes ou de biais racistes notamment. Et il est possible de faire attention, de faire attention, de faire des tests pour voir qu'il n'y a pas trop de ces biais humains qui se retrouvent dans la machine. Parce qu'un problème, c'est que bon, quand on est face à un humain, on peut savoir qu'un humain peut être sexiste ou qu'un humain peut être raciste, et puis un peu agir en prenant ça en compte. Mais quand on est face à une machine, on a l'impression qu'elle est forcément objective, qu'elle est forcément neutre, mais c'est pas nécessairement le cas si elle a été entraînée avec des données qui, elles, n'étaient pas neutres. Donc c'est important d'être vigilant.
Et excuse-moi Martin, je veux pas couper le fil de ta pensée, mais aussi les programmeurs eux-mêmes ne sont pas toujours au courant du fonctionnement ou de la façon dont les algorithmes prennent leurs décisions, à ce que j'ai cru comprendre.
C'est vrai qu'il y a aussi une autre dimension qui est l'aspect boîte noire qui était dans la question d'Adeline. Ça, dépendamment de la technique, quand c'est des règles qui sont implémentées dans un algorithme, bon, ça c'est facile, c'est l'humain qui, le programmeur, la programmeuse qui implémente la règle, il la connaît. Mais les trucs qui marchent bien en ce moment, c'est ce qui fonctionne avec l'apprentissage automatique, et ça c'est un autre type de code, c'est un peu comme la machine qui apprend elle-même. Et c'est tellement complexe, ça fait appel à des réseaux de neurones profonds. C'est ça d'ailleurs qui a rendu Yoshua Bengio célèbre, c'est qu'il a travaillé sur ces neurones artificiels. On parle de neurones artificiels parce que c'est un peu la même idée que ce qui se passe dans le cerveau humain. Et donc ces réseaux de neurones artificiels peuvent être extrêmement complexes. Et ils sont difficiles à interpréter. En particulier, on ne sait pas forcément pourquoi, dans le détail, ou on le sait avec tellement de précision que ce n'est pas intéressant pour l'humain de savoir pourquoi un algorithme a pris telle ou telle décision. Bon, et là, il y a des gens qui vont dire, mais c'est pas un humain aussi, quand il prend une décision, c'est pas nécessairement pourquoi, c'est pas parce qu'il vous dit, j'ai pris cette décision pour telle et telle raison, que c'est vraiment ça qui s'est passé. Là, l'être humain est très très bon pour ce qu'on appelle faire la rationalisation après coup. Là, en fait, on prend une décision, le coup de l'émotion, et puis après, quand on vous demande d'expliquer, vous allez donner des raisons, mais qui sont un peu bidons, là, qui sont arrivées après. Donc, chez l'être humain, on pourrait aussi dire qu'on a ce problème d'opacité de pourquoi telles décisions sont prises. C'est sûr que ça peut être embêtant, et puis il y a beaucoup de chercheurs qui essayent de voir comment minimiser ce problème-là.
Ma dernière question, qui est un peu liée avec l'avant-dernière, c'était aussi comment réussir à programmer des intelligences artificielles, des robots qui vont durer dans le temps, dans le sens où on voit que les mœurs et les mentalités bougent extrêmement vite. Les pensées d'il y a 50 ans au Québec ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui. Donc comment faire pour réussir à programmer des robots et des intelligences artificielles qui vont suivre en fait le cours de ces nouvelles mœurs ou de ces choses-là?
Ouais. Alors, on peut faire le lien aussi avec la question que tu posais sur la géographie. Parce que d'une certaine façon, là, on parle de la relativité de la morale, non pas à la géographie, Chine ou Canada, mais dans le temps. Donc, Canada 2020, Canada 2050. Et là, il y a un peu le même genre de problème qui se pose, à savoir est-ce que ce qui est moralement bien au Canada en 2020, ce sera encore bien en 2050. Puis est-ce que ce qui est bien ou mal dépend de la date, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont bonnes une fois pour toutes et mal une fois pour toutes? Là, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est l'esclavage. Donc, on pourrait dire, regardez, dans la Grèce antique, chez Aristote, le philosophe, Aristote avait des esclaves et trouvait l'esclavage parfaitement acceptable. Puis aujourd'hui, on trouve ça inadmissible et moralement mal. Donc là, il y a deux attitudes qu'on peut avoir. On peut se dire, en fait, ni l'un ni l'autre n'a raison. C'était comme ça du temps d'Aristote. C'est différent aujourd'hui, mais dans le fond, c'est relatif. Donc, on parle d'un relativisme culturel et selon l'histoire. Mais en fait, la plupart des gens, on a l'impression que non, quand même, c'est Aristote, c'est les Grecs qui se trompaient et qu'on a raison de penser que l'esclavage est mal. Ou, pour prendre un exemple encore plus facile, plus parlant, quand bien même quelqu'un dirait que c'est correct de torturer un innocent pour le plaisir, on voit bien que c'est probablement mal une fois plus. Donc il y a peut-être des principes, pour lesquels c'est pas un problème s'ils sont figés dans le temps, en espérant que on n'est pas comme Aristote à se tromper sur des choses aussi grosses que l'esclavage. Il y en a peut-être, hein. Moi, par exemple, je pense qu'au niveau des animaux, on fait un peu le même genre d'erreur qu'Aristote pouvait faire avec l'esclavage. Mais donc, ça, c'est un élément de la réponse. Après, pour d'autres sujets où c'est moins clair ce qui est la bonne chose à faire, donc peut-être enfant vieillard, peut-être encore un exemple là. Là, du coup, il y a un genre de risque qui est un décalage entre la programmation des robots et puis les intuitions communes des gens autour. Alors, avec le type de robot que je propose, les robots vertueux, qui sont des robots, en gros, qui sont programmés pour agir comme agirait une personne vertueuse ou un ensemble de personnes vertueuses, le problème se pose moins si on admet que les personnes vertueuses auxquelles on se réfère, ce sont les personnes vertueuses de l'époque vivante. Donc, il se peut que les personnes vertueuses de Canada 2020 aient des intuitions un peu différentes des personnes vertueuses de Canada 2050, mais le robot s'adapte à ça parce qu'il imite les personnes de son époque.
Très, très, très intéressante. Martin, je m'en permets une petite dernière, si tu me le permets, rapide. Si tu as un seul souhait pour tout ce qui est la robotisation, les algorithmes, l'intelligence, un souhait de bonne foi, je ne sais pas si ça se dit bien comme ça, mais pour les prochaines années, ce serait quoi?
Si ça pouvait aider un peu à atténuer la crise climatique, ça serait une bonne chose. Quoi. Parce que c'est quand même, à mon avis, là, le gros enjeu à court, moyen terme. Donc, si on arrivait à faire que YouTube ou Facebook ou je ne sais quoi, d'une manière ou d'une autre, atténue la crise climatique, ce serait bon.
Très, très, très intéressant. Bien, merci beaucoup encore une fois, Martin Gibert. Rapidement, si les gens veulent se procurer une copie de ton livre, c'est disponible notamment, ici on l'a eu, notamment au Cégep de Gaspésie des Îles, mais ça fait partie d'une collection de livres, donc différentes pièces, là, et c'est l'exemplaire numéro 17.
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une collection qui est plus ou moins matchée avec un magazine qui s'appelle Nouveau Projet, Et c'est les éditeurs de ce magazine qui éditent aussi cette collection. Et l'éditeur s'appelle Atelier 10. Mais donc, je vous invite aussi à regarder le magazine, qui est un bon magazine québécois, là, qui gagne régulièrement des prix du meilleur magazine. Et on peut commander sur leslibraires.ca, par exemple. Il n'est pas très cher. Il est pas très long, assez facile à lire. Et,
effectivement, on parle d'environ 90 pages. Là, ouais. C'est très bien. C'est ce que j'ai aimé. Là, environ deux soirées tranquilles installées chez nous. J'en ai appris beaucoup. Donc, merci beaucoup.
Alors, merci beaucoup, Martin, pour ton temps. Merci également à Adeline de s'être prêtée au jeu de l'entrevue. Brillamment, par ailleurs, j'ajouterais.
Oui, bravo.
Bah, et merci de m'avoir invité. Et puis, merci d'avoir répondu à mes questions aussi.
Alors, on espère que vous en avez appris un peu plus sur l'éthique des algorithmes. Je vous remercie encore une fois, M. Martin Gibert, Adeline Lemasson, étudiante au Cégep de la Gaspésie et des Îles, et Olivier Provencher, mon acolyte dans ce projet qui est Le Pensoir. On vous dit à la prochaine fois.
Salut, Dave.
Au revoir.
Au revoir.